parti.
Oh. Enquête de cinéma.
Voilà, donc c'est parti.
Enquête de cinéma chez Aaron Sivers, cinéaste marseillais.
À mon avis, ces nombreux voyages ne sont que des fuites toujours renouvelées pour échapper à ses souvenirs.
Début de... des apatrides volontaires. C'est...
Viens par là, Aaron, voilà.
C'est un film en cours qui est en train de toucher à sa fin. Commencé depuis plusieurs années. C'est ça, Aaron ?
Oh oui, près de 10 ans maintenant. Un peu plus.
Un film en 16 mm.
Un film en 16 mm, ouais. Qui se fait petit à petit, comme ça vient.
Qui se fait avec peu aussi, puisque c'est un film que tu tournes depuis longtemps, mais... où tu tournes peu aussi, dans ce film, dans le chemin de ce film.
Ouais, c'est effectivement un film où j'ai pas eu de financement, et du coup il a dérivé vers quelque chose de beaucoup plus proche de moi, et si je fais la moyenne en 10 ans, c'est... Ah bon, maintenant il fait actuellement le pré-montage qui existe, fait une heure. Et en gros, si je fais le calcul, c'est comme si je tournais 3 minutes par an, sachant que c'est un film où il y aura très très peu de chutes. Ça veut dire que quasi toute la matière filmée est utilisée. Sur une heure, il doit y avoir peut-être 7 à 10 minutes de chute pour l'instant.
Et tu dis un film qui s'est un peu... où il n'y a pas eu d'argent et qui... tu parles de la production et dans le sens que le fait qu'il n'ait pas eu de moyens sur ce film, toi, ça a transformé l'histoire de départ.
Oui, parce que le premier projet, le projet initial, c'était un croisement entre une histoire qui s'est passée à Marseille et notamment le bombardement... effectué par les Américains pour couper en fait les voies de communication entre le nord et le sud de la France pour préparer le débarquement. Et donc il y avait le projet tournait autour du pont-tunnel où il y a eu les habitants de la Belle de Mai qui sont réfugiés sous le pont-tunnel pour s'en servir d'un bunker et il y a une bombe qui a traversé dans la lucarne entre les rails où il y a eu pas mal de morts et c'était un croisement entre ça et mon histoire, enfin l'histoire de ma famille, donc là, en Allemagne. Et il devait y avoir effectivement un travail avec des habitants de la Belle de Mai. Et tout ça, c'était prévu pour le 60e anniversaire de la libération de Marseille. Voilà. Il n'y a pas eu de financement et du coup, ben, qu'est-ce que je faisais de tout ça? Le film a dérivé vers quelque chose de plus proche de moi pour pouvoir tenir la longueur sans financement et continuer le film. Voilà.
Alors ta façon de travailler, elle est. Enfin, ce film-là est en 16 mm. Donc tu as depuis le départ travaillé en pellicule. Tu continues de travailler en pellicule. Bon, même si tu viens de t'acheter un appareil numérique pour essayer de voir ce que voilà comment ça va évoluer pour toi dans ton travail à l'avenir. Et puis vu que aussi la réalité de la pellicule fait que il est possible que les choses s'arrêtent à ce niveau-là, peut-être pas complètement, mais en tous les cas tu voilà bon tu testeras quelque chose de nouveau. Il n'empêche que tout ton travail jusqu'à présent a été tourné autour de la pellicule. Ça a commencé pour toi donc aux Beaux-Arts. Hein. Brièvement, peut-être tu peux dire quel est ton rapport à la matière, pourquoi c'est important pour toi de travailler avec ce support qu'est la pellicule aujourd'hui où voilà, bon, ça commence un petit peu à devenir quelque chose de rare.
Le début de mon travail, c'était pas encore rare. Effectivement, il y avait l'apparition du numérique, notamment du montage numérique, qui apparaissait, hein, quand je suis sorti des Beaux-Arts en 1996. Donc tout ce matériel-là, film, on pouvait l'avoir pour pas grand-chose et ça revenait à moins cher, tourner en film qu'en vidéo. Sachant que, bon, bien sûr, c'est les outils, hein, qui étaient moins chers, c'est pas la matière première, donc le film est le laboratoire. Mais il y avait moyen de s'équiper très facilement en cinéma. Et puis, pour moi, effectivement, c'était très très important de travailler en contact avec la matière, venant plus de la peinture et de la sculpture, essentiellement de la sculpture d'ailleurs. C'était très important d'avoir ce rapport direct, de couper dans la matière, de recoller cette matière pour faire le montage. Voilà, donc et la question de la disparition de la pellicule qui est un peu dans l'air du temps aujourd'hui, ne se posait pas encore à cette époque-là. Je me souviens d'ailleurs le premier catalogue Kodak que j'avais commandé pour savoir qu'est-ce qu'il y avait comme émulsion. Et on pouvait avoir de la pellicule 35, pas en 16 malheureusement, mais en 35 à des prix mais vraiment ridicules, à condition d'en commander un stock, quoi. Et c'était même assez fou, quoi. C'était vraiment pas cher du tout. À condition, effectivement, de se lancer dans un projet assez vaste. Alors ça concernait la 35. Alors, c'était un peu incompréhensible que ça soit valable pour la 35 et pas le 16, sachant que le 16 est recoupé dans la même émulsion que la 16 est, oui, j'ai dit la 35, la 16 est recoupée dans la même émulsion que la 35. Donc la matière première est la même, hein.
Quand on parle de cette matière que tu utilises pour travailler le cinéma, ça pose aussi, bien entendu, la question de l'économie de la vie. Comment tu t'en sors pour faire ton cinéma aussi? Parce que bien d'autres cinéastes ou réalisateurs diraient « moi j'utilise la vidéo parce que à côté je faisais des ateliers, à côté j'ai une pratique comme ça qui me permet d'être dans le tournage plus facilement, plus souvent. » Toi, où tu réalises un travail qui est minutieux dans le temps, très, très ciblé sur... Les films que tu fabriques, soit les tiens, soit ceux d'autres, en tous les cas, tu passes à chaque fois sur ces projets suffisamment de temps pour que ce soit, pour que ça tourne autour de ce support-là. Et donc dans ta vie, dans ton économie, comment tu t'es organisé pour rendre compatible ta pratique du cinéma et pouvoir vivre autour de ça, quoi.
Ah, vivre autour de ça, vivre et vivre ou se nourrir, c'est une grande question. Vivre autour de ça, bien sûr, on vit autour de ça. Il y a pas, et notamment là, je effectivement, je prends mon temps pour faire les films. J'ai pas d'inquiétude à devoir tourner vite, tourner beaucoup d'un coup. J'ai le temps, c'est quelque chose que c'est enfin ce projet là en tout cas des apatrides volontaires, c'est quelque chose que je porte en moi, hein, puisqu'il y a beaucoup de grosse part personnelle et très proche de l'histoire familiale et des questions qui me travaillent, hein. Donc je peux pas avoir d'inquiétude de ce côté là que ça dure 5 ans, 10 ans, 1 an. C'est quelque chose qui est en moi, donc je suis pas pressé d'en finir de ce film. Bon, bien que maintenant il faudrait quand même que je le finisse, hein. Il a été commencé depuis assez longtemps et la notion de temps, il y a 10 ans, on se posait déjà d'autres questions de temps qu'aujourd'hui, quoi.
Mais je dirais que ton rapport au temps, il n'a pas tant que ça changé finalement. Comment tu vis aujourd'hui, je dirais économiquement, comment tu t'en sors pour faire ce que tu as envie de faire, hein. Tu fais pas des ateliers de cinéma, tu et pourtant.
Moi justement, je trouve que dans la façon dont Aaron fabrique son film, justement, c'est là où je trouve qu'il déplace cette question. Moi, je le ressens comme ça par rapport à ce film-là. Je parle pas des... Il y a un truc où, justement, tu as l'impression que c'est ta vie est comme ça. Et de part, ta vie est comme ça. Il y a quelque chose du mouvement de ce film qui aussi sera comme ça, quoi. C'est... j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose où il y a une sorte de positionnement en disant, tiens, là, je m'arrête et parce qu'il faut que je pense à tourner ou je pense à faire. C'est quelque chose qui est plus de l'ordre de... Je sais pas, tu vois ce que je veux dire?
Si, je m'arrête pour me dire, là, je vais tourner.
Oui, mais comme tu es dans des courtes...
sessions
de tournage sur des courtes... durée de vie, tu vois, tu disais 3 ou 6 minutes sur une année, ça...
Disons que tout est prétexte à... Enfin, tout ce que je rencontre dans ma vie qui peut rentrer dans le film est prétexte à tourner. Hein. Après, effectivement, il y a le choix de dire, là, c'est le moment et je vais tourner une partie du film. Après, c'est complètement aléatoire, hein. C'est du jour au lendemain, souvent une petite phrase ou quelques mots que je note sur un papier et que je mets dans la poche arrière de mon pantalon. Et soit effectivement je le fais, soit ce papier-là, il disparaît tout doucement parce qu'il passe de pantalon en pantalon et ça disparaît, ou autrement ça reste juste une idée comme ça, c'est quelques mots, c'est quelques phrases notées. Et parfois ça se fait jamais, hein, mais dès qu'un élément de vie vient croiser cette idée-là, ou autrement parfois je la provoque aussi, hein, voilà, ça se construit comme ça complètement dans une sorte de chemin un peu aléatoire, sachant quand même à peu près vers où je veux aller. Et donc il y a un croisement entre la vie que je vis et ce film, ce cinéma-là. Et on est toujours aussi bien dans le réel que dans la fiction, dans tout ça. C'est l'histoire, mais c'est aussi l'histoire qu'on s'invente. Voilà.
Ton rapport au matériel, à l'utilisation des objets, à la caméra, à la table de montage 16, tout ce qui pour toi importe, puisque on est chez toi ici, c'est un lieu où il y a beaucoup de machines, où il y a une table 16 et convertible en Super 8, il y a beaucoup de choses, il y a une caméra, il y a ta Bolex là-haut, il y a bon, c'est aussi un atelier, c'est un atelier appartement ou appartement atelier, en tous les cas. Je voulais te demander, qu'est-ce que, dans ton rapport au cinéma, pour toi, qu'est-ce qui compte le plus? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui te fait aimer le cinéma? C'est
Parti.
parti.
Bobine 2 chez Aaron Sivers,
Ouais, mais
cinéaste de Marseille.
Tu m'as mis en décalage.
Ah, pardon. Ouais. Allez,
je t'ai mis en
en direct.
décalage.
Voilà.
Ah oui, décalage. Donc, Bobine 2. Alors, réponse de Aaron à la question existentielle de Fabrice.
Alors,
un petit café
alors
entre-temps.
tu parlais des machines là, qui m'entourent et tout ça. Oui, pour moi, c'est très important de vivre au milieu de mes machines. Que ça soit pas juste un lieu de travail, mais mon travail, c'est un lieu de vie aussi. Ça va dans les deux sens. Hein, comme si le cinéma venait au milieu effectivement, entre deux bobines, entre deux magnétos, entre deux caméras. C'est toujours ce rapport, ce besoin d'être dans la matière, dans les outils de la matière.
Ouais, mais alors t'as commencé par faire de la sculpture, enfin t'as pratiqué ça aux Beaux-Arts, etc. En quoi le cinéma a répondu peut-être plus complètement à ta pratique, en fait, à ton souhait de.
C'est quelque chose qui traînait un petit peu dans l'endroit où j'ai vécu, où j'ai grandi. Et il y avait une présence du cinéma, même si c'était plus. C'était pas le cinéma, mais c'était plus pour des raisons. On va dire militante, etc. J'ai grandi dans un endroit où ben, il y avait un projecteur, et puis les premiers films de cinéma en dehors des salles hein, de cinéma. Ouais, alors, ça c'est assez drôle. Le premier film que j'ai vu ou pas vu de ma vie, c'était. Sous les jupes de ma mère, parce que quand ils allaient au cinéma et qu'ils ne pouvaient pas nous faire regarder, ils nous faisaient rentrer en douce. Et nous, bon, on dormait sans doute, hein, mais voilà. Donc, la première fois où je suis rentré dans une salle de cinéma, c'était sous les jupes de ma mère, quoi. Ouais. Et après, plus tard, bien plus tard, je vivais à la campagne et à Longomaille, la communauté Longomaille. Et il n'y avait plus le cinéma de la ville la plus proche, la petite ville de Forcalquier, toute proche, avait plus ou moins fermé. Et ils avaient. Du coup, ils étaient un peu dans le mouvement des ciné-clubs, etc. Donc, tous ces films-là qui étaient montrés en 16 mm, ben, je les ai vus. Dans notre chambre d'enfant, donc Cuirassé Potemkin par exemple, je l'ai vu comme ça là. Il fallait éteindre toutes les lumières, allumer
Oui,
le générateur.
donc t'entendais le projecteur tourner déjà.
Ah, oui, il y avait tout ça, il y avait le cliquetis de la pellicule qui passe dans la machine. Voilà, donc je pense que c'est une des raisons, hein, mais voilà. Après le fait aussi de faire de la sculpture et voilà, on est proche des bruits, des odeurs, de tout ça. Et donc j'ai besoin d'un rapport comme ça, de direct à la matière, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est pour ça où c'est un peu la raison pour laquelle je suis plus facilement venu à la pellicule qu'à la vidéo. Il y a quelque chose qui me gênait dans la vidéo, c'était un peu quelque chose de un peu comme je disais tout à l'heure, le doigt de Dieu, hein, quelque chose de mystérieux. On sait pas d'où ça vient, cette image fait que d'électricité, de magnétisme, et on perdait un peu, en tout cas, la visibilité de la machine qui met en route cette image-là. Parce que c'est une cassette, parce que voilà, tout ça. Alors que le cinéma, on voit la bobine se dérouler, ça passe dans le
On entend la caméra
projecteur,
tourner.
on entend tout ça, on voit tout ça. Il suffit d'ouvrir une machine pour comprendre à peu près comment ça marche. Alors qu'ouvrir un magnétoscope, par exemple, bon, bah, ça reste. Bon, on voit un petit peu, hein, quand même, mais c'est. Pour moi, c'était moins magique parce que trop 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 comment dire trop je trouve pas le mot là, mais
on pourrait dire obscur,
ouais, il y avait quelque chose d'obscur,
de caché, quoi.
de caché ou de il y a un mot pour ça, hein, mais je le trouve pas là,
Bah, tu t'es.
mais voilà. Ça touchait plus à la religion pour moi que le cinéma, qui était plus dans quelque chose de matérialiste, quoi. Plus proche d'un tronc d'arme, d'un morceau de métal qu'on va scier, qu'on va tordre. Voilà, donc il y a tout ce rapport-là.
Par rapport au projet que tu fais pour toi, c'est-à-dire tes films et des projets sur lesquels tu travailles, ou notamment sur le film de Kyé où tu étais chef opérateur, donc pour un film qui s'appelle Tuk Tuk et qui est en train d'être achevé en ce moment en mixage, je crois, ou pratiquement terminé même. Il est terminé. Bon, là, est-ce que c'est autant important pour toi, je veux dire, d'être dans cette posture de chef opérateur? Est-ce qu'il n'y a pas la nécessité de faire un film, elle se place où dans cette durée qui est assez longue dans laquelle tu te mets, tu te places pour faire tes films, etc. Puis au milieu, tu travailles sur des projets d'autres, tu te places soit en tant que monteur. Là, sur le film de Madi Delcipé, sur Autodix, sur le film de Kyé en tant que chef opérateur, etc. Est-ce que tout ça forme un tout pour toi, sans distinction réelle d'importance? Ou on pourrait considérer que ton projet sous-jacent est lui la priorité, etc. Ou tout ça forme une matière aussi diverse et variée?
Ah, ça. Une bonne question, une grande question. On va dire, c'est comme si pour moi j'avais le temps. Les autres, ils n'ont pas le temps, mais moi j'ai le temps. Ce qui est une aberration hein, de dire ça. Mais pourtant, il y a de ça. Du coup, effectivement, il y a une sorte d'équivalence qui opère. Hein. Je travaille pour quelqu'un d'autre. C'est pas sur mon film, effectivement. Mais peut-être que ça me tient autant à cœur. En tout cas, pour un temps. Hein. Peut-être moins dans la durée. Mais pour un temps, ça me tient autant à cœur, oui. Et puis, je pense que si on travaille sur un film, il faut y mettre le maximum qu'on peut, quoi. Et l'investissement pour soi est dans ce cas-là le même que sur le film de quelqu'un d'autre.
C'est marrant, tu dis que tu as le temps, effectivement, et en même temps, tu travailles souvent jusqu'à... Enfin, les nuits, bon là, il est 3h moins 20 du matin. Ça veut dire que tu acceptes, enfin, tu as accepté qu'on pousse cet entretien avec toi tard dans la nuit pour parler de cinéma. Et tu fais la même chose avec le film d'autres où effectivement, ta part d'investissement, elle est, je dirais sans, bah, je sais pas dire sans limite, mais en tous les cas, elle est d'un investissement considérable. Donc, comme si le temps était distendu pour toi, que entre les nuits, les jours, il y a quelque chose qui s'imprègne. Enfin, c'est peut-être un peu poussé, mais
je me prends une cigarette si j'arrive à trouver mon paquet de cigarettes.
Le dernier paquet.
Voilà, qui est censé être mon dernier paquet et que je trouve pas.
Elle est peut-être sous les machines.
Il m'en restait pas une tout à l'heure.
Non, tu l'as fini.
Non, c'est pas vrai. Je travaille pas. Je travaille pas nuit et jour sur les films des autres. Pas forcément, ça peut arriver, mais là par exemple on prend le temps parce que déjà vous êtes arrivé avec des machines qui marchaient pas hein, pour enregistrer, donc il a fallu trouver un moyen d'enregistrer quand même.
On enregistre avec quoi d'ailleurs là?
Donc là on enregistre avec un Agrain, un 4-2, donc par rapport au cinéma c'est assez beau, hein. On revient aux machines qui ont fait leurs preuves pendant des années.
Ouais. Et je peux témoigner que ta voix effectivement prend une autre dimension avec le Nagra que tout à l'heure.
Ah bah oui, il y a plus de corps, hein. C'est si il y a peut-être plus de souffle que le numérique, et encore, hein, et encore, selon les préamplis. Mais il y a du corps, il y a de la matière, et en film c'est pareil, on a des poils, on a des rayures parfois, mais tout ça, ça crée un corps et une chaleur. Et là si on arrive au numérique, là, si on parle du numérique, j'ai une sorte de répulsion.
Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est important, parce que tu parles de matière. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, moi c'est une question que je me pose bien sûr aussi, peut-être une question d'habitude aussi quand on voit un film maintenant, puisque tous les cinémas sont quasiment tous sont passés en projection numérique, est-ce que le numérique, l'image telle qu'on le voit là, pour toi, je ne sais pas si tu as vu un film projeté en numérique déjà, mais... Est-ce que c'est possiblement une nouvelle matière ou est-ce qu'il y a absence de... Bah, peut-être absence, mais de matière dans ce qui est projeté aujourd'hui, dans ce qui est fait en numérique, du coup. Là, tu te viens de t'acheter un appareil. Est-ce que tu vas retrouver de la matière, quand même?
J'espère. Ou ça sera peut-être faute de pouvoir faire autrement. Après des projections là en numérique, je pense pas en avoir vu encore, non.
Je suis pas sûr. En HD en tout cas.
Oui, en HD, oui. Oui, ça fait un petit moment. Mais bon, HD, bon, la HD, on l'a vu, mais souvent dans des lieux qui sont pas des cinémas, et où c'est. Bon. Où il y a tellement de défauts qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est le HD et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça ne veut pas dire que les projections dans les cinémas sont parfaites, hein, loin de là. Mais pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion non de voir un film à HD, en DCP dans une salle de cinéma. J'ai entendu dire certains projectionnistes qui me disaient ah oui, ça pique les yeux. Mais bon, après c'est toujours pareil, c'est aussi une question de malheureusement peut-être, hein, mais d'habitude. Moi, les premiers CD, je préférais le son des vinyles, et j'ai encore une platine là. Et je préférais même le son des cassettes au CD, parce que je n'étais pas habitué à ce son épuré, un peu métallisant. Voilà, après, c'est toujours pareil, les notions, elles se déplacent, hein. Il y a du beau dans le lait. Ou s'il y a que du lait, on va y trouver du beau. Il y aura du plus beau dans le lait, même s'il n'y a que du lait, etc. C'est toutes des notions qui se déplacent en permanence. Et il y a des habitudes, il y a des oublis qui se font aussi. On oublie certains sons, on oublie certaines images, on oublie certains corps. Voilà. Et peut-être heureusement, l'homme s'habitue à beaucoup de choses.
C'est plus grand.
Peut-être malheureusement aussi, hein, dans c'est certains cas.
C'est mais... ça que c'était sa plus grande qualité, et puis son plus grand défaut.
Ben oui.
De s'habituer. Mais toi, par rapport à l'outil numérique, c'est surtout finalement une question de matière. C'est beaucoup moins une question de pouvoir... La question du temps, c'est-à-dire de te retrouver avec des bandes de 60 minutes, toi, ça te parle comment si, je ne sais pas si tu as déjà eu la possibilité encore ou pas de... Mais c'est...
Oui, je l'ai eu en vidéo déjà, là, mais effectivement, moi, je suis très attiré par la bobine qui dure 3 minutes, 6 minutes du cinéma, voire 10 minutes. Mais 10 minutes, déjà, c'est une notion presque trop vaste de durée en tournage. Je le gère moins bien. Une bobine de 3 minutes, je sais à peu près la gérer quand je tourne. C'est une notion qui... ça va. Je sais, bon, c'est tant de plans à peu près. Je l'intègre à ma façon de filmer.
Bobine 3, on est avec Aaron Sievers.
Ouais, on parlait de la notion de durée quand on filme avec des bobines. Et on est en train de le rencontrer là. On devait enregistrer sur un petit appareil numérique.
À durée indéterminée.
Voilà, à peu près indéterminée. Ouais, bon, ouais. Il y a quand même une fin. Hein.
Il y a quand même une fin.
Là, on est sur des notions de 15 minutes là, avec le Nagra. Et voilà, avec la caméra, c'est des notions de 3 minutes, 6 minutes. Et du coup, pour moi, c'est un engagement quand je filme aussi. C'est, alors. C'est un peu de l'ordre de la performance, sans chercher à être
performant
dans la performance. Hein, c'est pas du m'as-tu vu ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je recherche. Mais il y a cette notion-là d'être en rapport direct avec un temps court, d'essayer de saisir vraiment arracher ce dont on a besoin, quoi.
Alors ça, c'est valable pour peut-être ton cinéma, mais est-ce que ça change radicalement les choses pour un cinéaste qui tourne sa fiction avec 4, 5, 6 acteurs qui va faire ses prises, une première, une deuxième, une troisième. Finalement, quand il était en pellicule, il faisait jusqu'à 4, 5, 6, 7 prises parfois. Est-ce que finalement le numérique change grand-chose à peut-être une plus... moins de gros matériel, moins de lumière, moins de... etc. Mais sur la question de la durée, est-ce que tu crois qu'à ce niveau-là, qui n'est pas d'ailleurs forcément un cinéma d'industrie, qui peut être un cinéma tout simplement de fiction, court-métrage, peut-être... voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est propre à un cinéma tel que tu l'envisages ou on peut l'envisager pour certains d'entre nous dans sa manière d'être fait, c'est-à-dire d'être fait dans la durée, d'être fait avec le temps qu'il faut, etc. Mais sur, on va dire, si on parle de peut-être de d'autres cinéastes qui tournent plus souvent ou avec des économies peut-être différentes aussi, est-ce que cette question de la durée peut se poser aujourd'hui avec le numérique?
Elle se pose toujours, hein. Après, tu parlais de fiction, donc dans une fiction, on est dans un autre rapport. Effectivement, il peut y avoir tant et tant de prises, mais c'est toujours dans quelque chose de préétabli, ou à peu près. On veut faire jouer ça, et on essaye d'obtenir ça. Donc c'est souvent sur des durées relativement réduites, quoi. Relativement, hein. Après, c'est sûr que dans le cinéma américain, ça sera très très réduit en durée, parce qu'il y a beaucoup de coupes. Dans un autre cinéma, ça va être plus... plus dilué dans le temps, etc. Mais pour la fiction, la question se pose moins, je pense. Alors qu'en documentaire, voilà, on se répète un peu puisqu'on a tout fait avec un magnétophone qui ne marchait pas, je trouve que souvent il y a un rapport qui n'est pas juste. Voire, je le dis un peu en provoquant, mais... rapport de capitalisme,
consommation.
De consommation, je sais, alors est-ce que c'est vraiment de la consommation, je sais pas, consommation ça voudrait dire qu'on l'ingurgite et qu'on le digère, alors que quand je parle de capitalisme, je pense à des gens qui sont partis tourner en Afrique, qui ont fait 30 heures de rush, et pour un film qui dure après 40, peut-être 40 minutes, alors je ne me souviens plus très bien, où là, je trouve qu'il y a un décalage total, quoi. Pourquoi prendre autant de matière et garder si peu? Ça me semble assez aberrant, en fait. Comme rapport au monde, hein. Alors qu'on peut... On peut aussi envisager le monde en se disant ben on prend peu, ben tant pis si c'est pas parfait, mais on essaie de saisir les choses qui nous importent et ce qu'on saisit pas, ben on fait vivre autrement, quoi. Et ça peut être par le son, hein, par exemple.
Ou par le montage.
Ou par le montage et éventuellement, oui, enfin bon. Par l'ensemble de ce qu'est le cinéma, ce que compose le cinéma.
Et ça fait partie de ton film, d'ailleurs. Tu disais que qui contenait les... Enfin, que 90% de ce que tu tournais était dans le film, ou c'est peut-être pas exact, mais en tout cas, la majeure partie des plans que tu tournes sont utilisés. Il y a peu de déchets, et en tous les cas, ce qu'on pourrait qualifier dans... Par ailleurs, de plans pas parfaits, toi tu les utilises comme étant des matières faisant partie de quelque chose qui a aussi de la valeur, qui n'est pas considéré comme déchet, mais qui est considéré comme acte volontaire à un moment donné et qui fait sens d'être conservé comme geste au moment où il s'est fait si.
Oui, parce que l'accident nous permet d'affirmer des choses. Dans les apatrides, il y a peut-être un plan que j'ai refait deux fois, hein, parce qu'il y a un coup de zoom dedans, alors que j'aime pas beaucoup ça, hein, mais bon, là, ça me semblait évident qu'il fallait un zoom. Et j'ai choisi le plan le plus pourri des deux, où il y a un à-coup dans le zoom, parce que tout simplement, avec le son, enfin, il y a une voix off à cet endroit-là. L'accident dans le mouvement du zoom percutait avec un mot, et ça me parlait beaucoup plus que le zoom fluide. Ça dramatise un peu à cet endroit-là, et voilà. Et donc du coup, l'accident devient écriture ou mot projeté.
Mais par contre, au montage, il en est vraiment totalement autre, quoi. Enfin, je veux dire, ton rapport, il est extrêmement précis au montage, c'est autre chose. Enfin, il n'y a pas d'accident, ou alors peut-être que c'est pas le mot qui convient. Il y a des ruptures. Il y a comment tu pourrais en parler de ton rapport au montage, en fait.
Par rapport à ce film tourné sur où t'as peu tourné sur des une longue période, comment le travail du montage se déroule, quoi.
Alors, c'est un peu difficile d'en parler, parce que pour l'instant, j'en suis à un pré-montage. En fait, je fais un pré-montage au fur et à mesure pour savoir un peu où j'en suis, quand même,
dans le film. Au fur et à mesure du tournage,
depuis 10 ans, plus de 10 ans.
Ouais. T'as commencé tout de suite à monter des images, quoi. À faire des...
Assez rapidement, assez rapidement, pour savoir un peu ce que j'avais aussi, hein, et rester aussi en contact avec le film. Après, comme le son est complètement séparé, bien sûr, il y a des accidents, il y a des rencontres qui se font quand on fait les essais, et puis il y a la juxtaposition des choses, ça me parle ou ça me parle pas, je garde ou je garde pas, je vais fouiller ailleurs. Voilà, c'est vraiment essayer de mélanger plusieurs matières différentes ensemble, voir ce que ça donne, et parfois, et souvent, c'est une question ouverte, hein, voilà. Qu'est-ce que ça vous dit, à vous, hein, ceux qui vont voir le film? Qu'est-ce que ça dit quand je mets ça et ça? Moi, j'ai pas forcément de réponse. Sauf que je sais que ça me parle. Ça ne crée pas forcément un discours, et je cherche pas à créer un discours. Ni une parole vraie. Je cherche pas une parole vraie. Je cherche à questionner qu'est-ce qui se passe entre deux plans, entre deux sons, entre une image, un son, et... Et donc c'est de l'alchimie. Il y a un précipité ou non, mais...
C'est quoi que tu fais là comme différence entre ce que tu as l'air de dire par rapport à un montage classique, c'est-à-dire, ou classique, je ne sais pas, mais en tous les cas, parce qu'il n'y a pas qu'une... Il y a plein de formes de montage, il y a plein de monteurs différents aussi, mais en tous les cas, qu'est-ce que tu veux dire par le fait de... On dirait que tu veux exprimer quelque chose par rapport à ta manière de monter qui ne serait pas... comme celle que tu vois d'habitude au cinéma?
Non, c'est pas une question qui me travaille, ça, du tout. Chacun a sa manière de faire, et la cuisine qu'il emploie m'intéresse pas beaucoup, en fait. Je cherche pas à me comparer aux autres, ni à être moins bien, ni meilleur. Ça m'intéresse pas trop, ça, en fait.
Non, mais quand tu dis je cherche pas
à créer un discours.
Ouais.
Oh, ben souvent les films, ils traitent d'un sujet, ils veulent bien le traiter, il faut que ça soit clair pour tout le monde, et surtout compris par tout le monde, et surtout pas poser trop de questions. C'est quand même le gros du cinéma. Alors, le pire est peut-être ce qu'on lit dans le dans les programmes de cinéma, quoi. Quand on lit le petit résumé des films, mais on n'a pas envie d'aller au cinéma, quoi. Enfin, moi, ça m'est arrivé récemment, là.
Est-ce que tu restes quand même assez fréquemment touché par des films que tu vois, passés ou présents, ou c'est compliqué pour toi? Enfin, est-ce que tu t'y retrouves que rarement dans les films que tu vois?
Oui, ça arrive rarement, oui, bien sûr. Ça arrive rarement. Mais bon, comme quand on va dans un musée, hein, c'est... Si on parle des musées actuellement, moi ce qui me frappe toujours, c'est quand on part en voyage, on part, je sais pas, à Berlin par exemple, vivant ici, on part à Berlin, ou à Paris, ou n'importe où, on va dans un musée, on retrouve toujours les mêmes références. C'est la culture générale, quoi. Mais si je vais, je sais pas, moi en Espagne, j'ai pas forcément envie de voir un Beuys. Si je vais à Düsseldorf, ça me semble normal. Si je vais à Berlin, déjà la question se pose. Alors, je sais pas si ça répond bien à ta question, mais voilà, moi je trouve ça aberrant, l'espèce de culture générale qu'on nous impose partout. Et en fait, c'est toujours la même, en tout cas en Occident. C'est fatigant quand même.
Tu veux dire que t'es rarement surpris donc au cinéma par des propositions qui peuvent être radicales ou en tous les cas intéressantes, vraiment, où il y a quelque chose qui se propose, quoi.
J'y vais rarement, déjà. J'y vais rarement parce qu'effectivement... parce qu'il y a beaucoup de déceptions souvent. Ouais.
Ou parce que tu préfères être sur tes machines.
Ah, je préfère faire le cinéma que voir le cinéma, peut-être. Oui. Mais bon, ça, oui, c'est je préfère être dans le faire que dans le voir, peut-être. Après, des films, on s'en fait tous les jours, sans pellicule, sans numérique, sans... On se le fait.
Non, mais c'est important ce que tu dis quand même, parce que oui, t'es plus à l'endroit de la fabrication que, bon, même si t'en vois des films, parce que t'es quand même à un endroit où on passe des films.
Oui, bien sûr. Ouais. Oui, mais justement, là, bon, si on parle par exemple de films flammes. C'est là où c'est un des endroits, hein. C'est pas là, mais c'est un des endroits où comme il n'y a pas de sélection de fait en amont, on tombe sur des choses souvent assez rares, quoi.
Ouais, puis divers et variés.
Des objets non identifiés.
Ce qui arrive beaucoup moins dans une salle de cinéma, quand même, traditionnelle.
Tu sais ce qu'on va te servir un petit peu, ouais. Bon, tu connais le réalisateur, tu connais... Bon, il n'y a pas que ça.
On connaît le réalisateur. Est-ce qu'on connaît un réalisateur?
Non, enfin bon. Je veux dire, on a peut-être déjà vu certains de ses films.
Oui, mais est-ce que quand on a déjà vu les films d'un réalisateur, est-ce qu'on s'attend à voir la même chose? Non.
On s'attend pas à la même chose,
non,
mais...
Ça serait dommage un peu.
Non, mais enfin bon, c'est un peu la même chose que quand tu écoutes une musique que tu aimes, tu retrouves une odeur,
Ouais, mais je trouve que c'est ça qui est... C'est le risque, parce que c'est... T'as l'impression que t'es... On laisse pas, ou je sais pas, peut-être je me trompe, la possibilité à un cinéaste d'un moment de faire tel film, et puis à un autre moment de faire tel autre film... Il y a quelque chose où...
Ce que je veux dire, c'est qu'on est, bien entendu, toujours un peu prévisible. Et effectivement, quand tu dis que... voilà, il y a un film flamme des possibilités de tout d'un coup de découvrir, parce qu'on ne sait pas à ce qu'on s'attend, on s'attend à rien. Et souvent, aujourd'hui, enfin, dans notre environnement, on a tendance à vouloir s'attendre à tout. Même si on ne le souhaite pas, on est quand même
des êtres humains qui sommes dans cette chose qu'on attend.
Ouais.
Dernière bobine avec Aaron à Marseille, chez lui.
Ça y est, à ce niveau-là, est-ce que tu dis, ça y est, j'ai derrière moi un film? Pas encore.
Oh, je me pose pas ce genre de questions.
Non, mais peut-être, j'en sais rien.
Mais non, autrement, on arrête. Non, je me dis parfois, ce film-là, il est terminé. C'était le cas de Flaky et Camade. Mais en même temps, parce que je faisais des projections, je retouchais le film, etc.
Ouais, parce que moi, la première fois que je l'ai vu, c'était en 2007 à Lussas, je crois. 2007-2008.
Oui, il n'était pas comme c'est un film d'archives, les archives n'étaient pas encore restaurées, tout ça, donc il y avait tout un travail derrière. Mais en fait, pour moi, j'ai pris conscience que le film était fini, même si le mixage n'était pas fini, hein, mais le montage était fini, donc pas le film, mais le montage était fini quand les personnes qui détenaient les rushs ont récupéré les rushs. Et comme j'ai travaillé directement sur le 16 mm inversible, tout d'un coup, j'avais plus de matière. Hein. Donc c'est là où je me dis, là, cette fois-ci, c'est fini. Maintenant, on passe vraiment au mixage. Et
aujourd'hui, c'est quand il y a un disque dur qui pète.
C'est pas...
Oui, mais là, il n'y a plus rien dans ce cas-là.
Il n'y a pas d'histoire. Mais sur les apatrides, c'est qui va partir avec les rushs, là.
J'ai jeté, moi, certains rushs. Le négatif reste au labo, mais retour de rush, ça m'est arrivé de jeter des parties. De dire, ça, tu l'exclus complètement. C'était des images d'archives que j'avais repiquées, hein, que j'avais filmé un écran de télé, et c'était une orientation vers laquelle je voulais pas aller. Et donc j'ai coupé, j'ai mis à la poubelle ces éléments-là en disant ça, tu ne feras pas avec ça. Bon, c'était très peu, hein, mais ça m'est arrivé, ouais. Ouais.
Et sur les apatrides, c'est... Comment ça a été le fait que c'est un film où tu as fait le son d'un côté et l'image d'un côté la plupart du temps. Il n'y a jamais eu de synchronisation dans le chemin du tournage.
Ça m'intéressait pour ce film-là. Il y a certaines séquences. Après, je ne l'ai pas tenu tout le temps. Mais en fait, souvent, il y a un son d'ambiance qui est synchrone, qu'il soit synchronisé ou non. Après, au montage, ça, c'est une autre affaire. Mais il y avait une base comme ça de son d'ambiance synchrone ou synchronisable. Mais avec la parole qui vient par-dessus, qui vient chevaucher, en fait, Le son d'ambiance où les gens parlent. Hein.
Comment tu t'y prends justement pour le travail du son par exemple pour les apatrides, comment ça se passe? C'est toi qui prends le son? C'est quelqu'un d'autre?
C'est très variable. Hein, quand il y a un ingénieur du son qui passe par là, c'est lui qui le prend. Des fois c'est moi, des fois... Certains sons, c'est mon frère. J'ai collé le nagra dans les mains. J'ai dit, voilà, tu fais attention à ça. Et tu le fais. Bon, ça, c'était pour une séquence. Hein. Après, voilà, c'est un petit peu les personnes qui passent par là aussi, hein, souvent. Après, quand je peux, il y a vraiment quelqu'un qui prend le son. Quoi.
En tout cas, il n'y a rien au hasard, il n'y a rien de bricolé, c'est toujours quand même avec du matériel précieux, on va dire, que ce soit dans l'image ou dans la matière son. Il y a une minutie à la qualité.
Oh, il y a une tentative de Munici. Il y a plein. Il n'y a pas. Comment dire non, parce que. Oui, il y a. Y a...
Bah, si, quand même, je veux dire, t'es attaché à. Cette pratique, on va dire, du travail bien fait, de l'objet qu'on utilise pour le cinéma, donc dans tout, que ce soit dans l'image ou dans le son, ou, etc. Enfin, je veux dire, tu es entouré de machines que toi-même tu bricoles, etc. Donc tu connais tes outils de travail comme un peintre connaîtrait parfaitement ses pinceaux, ses tubes, etc. Enfin...
Je ne les connais pas parfaitement, mais effectivement, ça fait partie de ben, quand on parlait de vivre au milieu des machines, effectivement, il y a toute une partie comme ça de jouer avec, de faire des essais avec, de les démonter quand il faut et les remonter quand il faut.
C'est au-delà même que de l'envie de les maîtriser, c'est de, comme tu dis, de jouer avec, c'est-à-dire de savoir comment ça marche, etc. aussi. Donc c'est pas que en rapport au fait de savoir comment marche un agra et puis point barre, c'est plus que ça quand même.
Oui, parce que je cherche pas une maîtrise absolue. Je tends vers une maîtrise, mais je recherche pas une maîtrise absolue, loin de là. Tendre vers une qualité, mais pas la maîtriser absolument, non. Alors, c'est un peu pervers tout ça, hein, parce que c'est jouer beaucoup avec le potentiel des choses. Hein. Donc, tendre vers, pas forcément y être, mais tendre vers. Mais je crois que c'est important pour moi, ouais, ce potentiel aussi de me dire à tout moment je peux partir tourner, à tout moment je peux prendre un son. Je peux me réveiller au milieu de la nuit et prendre un son, par exemple. Et pouvoir le faire. Celui que je descends l'échelle et
tu peux le faire.
Et j'allume le magnéto. Voilà. C'est important pour moi, ouais. Et après, il y a tout le matériel que je mets en partage avec d'autres. Voilà. J'ai toujours travaillé un peu comme ça, d'avoir des choses plus personnelles, même si je les prête quand il faut, quand on me demande. Hein. En tout cas pour la plupart du matériel. Et puis avoir aussi du matériel qui est complètement mis en commun, quoi.
Je voulais revenir sur la question du montage. C'est comment, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, parce que tu t'as monté, t'as réalisé Flaky et Camarade, mais c'est un travail qui s'est joué au montage. Et là, dans les Apatrides volontaires, où tu te retrouves avec peu d'images, comment ça se comment dire, comment ça se travaille, c'est beaucoup par t'essayes, tu... Parce que même si t'as peu de plans, ça laisse quand même beaucoup de possibilités, toujours. Et qu'est-ce qui est entre ce qui est tourné et ce qui va... Et que tu vas monter de ces images tournées, quel écart ou pas se joue dans ta façon de travailler?
Ben, au tournage, ça se passe un peu comme un tourné-monté, sauf que, on va dire, c'est un tourné-monté chamboulé. Ça part d'une base tourné-monté, et puis au montage, finalement, je réorganise un peu les prises dans un autre ordre. Pas toujours, hein, mais des fois ça coule comme ça, et puis tant mieux. Mais je m'interdis pas, et c'est là aussi, il y a une performance, quand je parlais de performance tout à l'heure, j'ai besoin d'une tension au moment du tournage, et sentir la péloche qui court dans le magasin de la caméra, Mais je cherche pas la performance à avoir un tourné monté parfait. Je peux très bien le réorganiser après. Voilà, mais c'est toujours cette histoire de garder le maximum de matière possible, mais de rester ouvert à un montage derrière. Après, le montage, purement dit, il y a des choses qui sont essayées, il y a des choses sur lesquelles on se bagarre pour que ça puisse fonctionner tel qu'on le veut ou tel qu'on prédestine la matière. Et puis des fois, et ben, y a des choses qu'on essaye. On bataille pendant une semaine et puis finalement, ça tombe tout seul. Il y a aussi beaucoup le film lui-même qui va dire qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui ne tient pas. Ça a été le cas souvent dans Flaky et Camarades. Il y a certaines choses où on a bataillé parce qu'on sentait il y avait quelque chose de très beau, et sauf que le film nous a dit non, quoi, en gros. À la fin, donc aussi le travail que nous-mêmes on avait fait, nous disait non, ça tient pas par rapport au reste du film, et donc ça tombe presque tout seul. Même s'il y a une semaine, peut-être un mois de bagarre avant, en essayant dans tous les sens et en essayant de vraiment suivre pas la matière, mais une volonté de mettre ça. Et des fois, la matière, elle dit bah non, j'en veux pas.
Et ça, c'est aussi ce que tu vis sur les apatrides. Tu parles de Flaky, mais sur les apatrides, ça fonctionne aussi.
J'en suis pas encore à ce stade-là du montage, mais je pense que ça arrivera, bien sûr.
Qu'est-ce qui a changé depuis que tu fais du cinéma, beaucoup, dans tous les cas, que le cinéma a pris toute la place dans ta vie? Est-ce que comment t'envisages aujourd'hui ton rapport au cinéma? Est-ce qu'il est le même qu'au début? Tu utilises les mêmes outils, il est probable que tu en utilises d'autres maintenant, mais comment t'envisages la suite? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta manière d'envisager le cinéma, où tu te dirais j'ai plus envie de travailler comme ça, ou c'est une question un peu ouverte, hein, mais je sais pas s'il y a réponse derrière.
Ça dépend, hein. Sur le dernier tournage qui n'était pas pour moi, hein, je dirais j'ai plus envie de travailler avec une script, mais bon, parce que juste il y a eu on était en bagarre, mais bon, c'est des conneries de dire ça, hein. Même si c'est vrai pour ce coup-ci, mais non, moi j'ai mes outils. Ben j'essaie de trouver les outils qui à ma main. Donc on fera une autre bobine pour ça. Ouais. J'ai toujours cherché à trouver des outils à ma main. Donc je me permets aussi parfois de racheter du matériel, de le revendre parce que finalement ça me convient pas. Je teste un peu et puis ça me convient pas. Et voilà, et puis là je suis plutôt à évacuer des choses que j'ai accumulées et qui me servent pas finalement, tu vois, ou qui sont moins utiles. Donc c'est très mouvant, tout ça, et puis ça dépend ça varie d'un projet à un autre aussi.
Oui, ça fait partie du rythme des choses, et il n'y a pas un moment où ça change, ça évolue, quoi, ça change. Donc, mais c'est beaucoup, quand tu parles de changement, c'est beaucoup lié à l'outil.
Oui, et après, juste pour répondre à quelque chose que tu as soulevé, je ne vis pas pour le cinéma. Je vis et je fais du cinéma à l'occasion, quand je peux. Mais je ne vis pas pour le cinéma, ça serait...
Non, en tout cas, le cinéma dans ta vie enfin, est très présent. C'était un peu ça que je voulais dire.
C'est pas pareil.
Non, mais oui, c'est vrai. C'est pas pareil.
Ouais, c'est plus que 10 ans de ma vie, mais c'est pas grand-chose. Non.
Non.
10 ans, c'est pas grand-chose. Bon, 15, on va dire. Hein.
Quand même.
Oui.
Alors, comment on fait pour ce son?
Qu'est-ce que tu veux passer, Laure?
Mais non, mais c'était avant que tu avais prévu un
son. Ah oui, ben, on va faire une autre bobine, juste pour les deux sons restants. Là, on laisse dérouler. Et puis voilà, on arrive à la fin.
La musique qu'on entend en arrière-fond, c'est...
C'est les voisins.
Des voisins, voilà.
Des voisins qui prennent la pluie. Bobine 5, bobine 5.
C'est commémoration de la libération de Marseille. Hein. Alors voilà, en fait, souvent je cherche quelque chose de. Je crois que je cherche souvent un peu de méchanceté dans les choses. Et là, en filmant, et je l'ai vu en voyant les rushs, mais en même temps aussi en filmant. Il y avait un des légionnaires là qui fait partie de l'orchestre, un Africain tout droit, propre, avec le képi bien sûr de légionnaire. Et ouais, comment dire, et, cette image-là, ben, au fond, c'est la même que l'image de l'Arien, etc. C'est la même chose, bien propre, bien musclé, bien... Voilà, donc ce genre de rapport de méchanceté m'intéresse beaucoup. Oui. La méchanceté du monde. Et voilà, donc en fait, quand je filme, j'ai toujours... Alors c'est peut-être une illusion, mais l'envie de filmer comment on réfléchit, comment on pense. Peut-être comment on parle. Voilà. C'est tout. Vas-y, envoie.
Vous, qui émergerez du flot où nous avons sombré, pensez, quand vous parlerez de nos faiblesses, aux sombres temps aussi dont vous êtes saufs. Car nous allions, changeant de pays plus souvent que de souliers, à travers les guerres des classes, désespérés, là où il n'y avait qu'injustice et pas de révolte. Pourtant, nous le savions. La haine contre la bassesse, elle aussi tord les traits. La colère contre l'injustice renroque la voix. Hélas, nous qui voulions préparer le terrain à l'amitié, ne savions pas être amicaux nous-mêmes. Mais vous, le temps venu où l'homme sera un secours pour l'homme, pensez à nous avec indulgence. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. In die Städte kam ich zur Zeit der Unordnung, als da Hunger herrschte. Unter die Menschen kam ich zur Zeit des Aufruhrs.
C'était Enquête de cinéma sur Radio Galère avec Aaron Sievers dans son appart.
À la technique, Aaron Sievers.
Partout Aaron, qui nous a sauvés du numérique.
Par le Nagra.
Par le Nagra.